Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La campagne des municipales s'accélère à Paris et c'est sur RMC que ça se passe. Rachida Dati démissionne du gouvernement et sera l'invité d'RMC tout à l'heure à 8h30. On va vous expliquer dans ce journal les nouvelles règles pour utiliser son compte professionnel de formation. Ça change ce matin et on sera de retour dans les zones inondées de l'ouest de la France où des escrocs profitent de la décrue, vous verrez, pour arnaquer les sinistrés.
Dans moins d'une demi-heure, Rachida Dati sera mon invitée sur RMC.
Candidate de la droite pour les municipales, vous l'avez compris, à Paris, et qui a donc annoncé hier soir sa démission du gouvernement. Romain Cluzel, du service politique à RMC, vous êtes en direct avec nous ce matin. Elle était toujours ministre de la Culture et elle a vraiment attendu le tout dernier moment pour démissionner.
Exactement, Rachida Dati a poussé pour rester au ministère le plus longtemps possible, notamment pour régler la nomination du nouveau président du musée du Louvre. Ça a été officialisé hier. C'était le bon moment pour partir, se réjouit un proche de Rachida Dati, ravi que l'ex-ministre de la Culture ait pu fixer elle-même son départ. Désormais, elle peut se consacrer pleinement à la campagne municipale, Paris et l'engagement d'une vie, affirme Rachida Dati. Et elle est soutenue par Emmanuel Macron qui lui adresse tous ses encouragements. Le passage de Rachida Dati au ministère de la Culture pendant 2 ans est surtout marqué par des problèmes en cascade au musée du Louvre entre le cambriolage spectaculaire de l'automne dernier et les multiples grèves du personnel qui dénoncent la vétusté du bâtiment.
Elle démissionne, donc ça veut dire qu'il va y avoir un mini remaniement pour la remplacer.
Oui, Sébastien Lecornu a dû patienter pour que Rachida Dati quitte le gouvernement, mais cette fois-ci semble être la bonne. Le réajustement ministériel devrait avoir lieu aujourd'hui. En plus de Rachida Dati, la ministre chargée de l'autonomie, Charlotte Parmentier-Lecocq, va elle aussi partir. Ajoutée au départ d'Amélie de Montchalin pour la Cour des comptes, au total, ce sont 3 femmes qui sortent de l'équipe de Sébastien Lecornu. Et c'est une donnée à prendre en compte pour l'exécutif. Un proche d'Emmanuel Macron nous assure que la parité sera toujours respectée.
Alors pendant ce temps, le Premier ministre Sébastien Lecornu se félicite ce matin de l'accord qui a été trouvé hier entre les partenaires sociaux pour durcir les règles des ruptures conventionnelles. Alors en réalité, il n'y a que 2 syndicats qui ont donné leur feu vert pour réduire les durées d'indemnisation par l'assurance chômage. Il y a aussi les règles d'utilisation des comptes professionnels de formation qui changent et qui sont durcis à partir de ce matin. Ça y est, les décrets sont publiés, c'est pour faire des économies, conséquence du budget. Et donc désormais, Victor Girard pour RMC, pour utiliser son CPF, il y aura des plafonds.
Si vous êtes salarié, vous pouviez jusqu'ici utiliser l'intégralité de votre compte personnel de formation pour financer une formation, à condition bien sûr d'avoir un solde suffisant. Mais c'est terminé. Désormais, les montants sont plafonnés. 1500 euros pour les formations comme les langues étrangères, 1600 pour les bilans de compétences et 900 euros pour le permis de conduire. Même si votre solde est supérieur, impossible de dépasser ces plafonds, le reste est désormais à votre charge. D'ailleurs, le ticket d'entrée obligatoire pour accéder à une formation pourrait augmenter et atteindre 150 euros. Un décret est en discussion. Avec la réforme du CPF, le gouvernement espère économiser 250 millions d'euros, mais aussi modérer les pratiques de certains organismes, accusés de proposer des formations à des prix bien trop élevés.
C'est le mois prochain que le Sénat va examiner les textes de loi sur la fin de vie. La réforme sociétale du quinquennat a maintes fois repoussé, on en a beaucoup parlé hein, sur RMC. Thomas Becker, du service politique, hier soir, donc les députés ont de nouveau adopté le texte créant un droit à l'aide à mourir en attendant de voir ce que vont faire les sénateurs.
Oui, le texte arrivera au Sénat en avril. Olivier Falorni, député à l'origine de la loi, s'adresse directement aux sénateurs.
Vous êtes souverain, vous voterez ce que vous voudrez. Mais l'Assemblée nationale, représentante des Françaises et des Français dans ce pays, a dit à 2 reprises, cette loi, nous la votons. Et nous la votons largement.
Hier, juste avant le vote, les députés ont tranché sur l'un des points crispants du texte. C'est bien le malade qui s'administre la substance létale, le médecin n'intervenant qu'en cas d'incapacité physique. Seule nouveauté, un délit d'incitation à l'aide à mourir puni d'un an de prison. Mais pour les opposants au texte, un peu plus nombreux d'ailleurs que l'an dernier, il y a toujours un point qui ne passe pas, rappelle le député et médecin Philippe Juvin, celui des délais.
C'est 2 à 17 jours. 2 à 17 jours. Le désir de mort, c'est un désir qui est fluctuant. Est-ce que vous connaissez personne qui a voulu mourir un jour et vivre 2 jours plus tard?
Ce texte qui part au Sénat reviendra une dernière fois à l'Assemblée avec cet engagement de la présidente Yael Braun-Pivet.
Moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce texte puisse être adopté avant l'été 2026.
Pour une 3e et dernière lecture qui ouvrira la voie, après 3 ans de débat, à une adoption définitive.
La parole continue de se libérer dans les écoles catholiques du sud-ouest de la France. Et on reparle ce matin de l'établissement Saint-Jeunesse-Lassalle de Bordeaux. On savait jusque-là qu'un ancien enseignant était accusé de viol et d'agression sexuelle par d'anciens élèves. Eh bien, on apprend ce matin, Romain Haug, et vous allez nous détailler tout ça pour RMC, que de nouvelles accusations sont portées, cette fois à l'encontre d'un ancien responsable de l'école.
Oui, c'est un signalement à la justice qui date du 2 février dernier, fait par des enseignants et qui mentionne les comportements inappropriés de cet homme entre 2017 et 2024, alors qu'il était délégué de tutelle au sein du groupe scolaire Saint-Jeunesse-Lassalle à Bordeaux. Aujourd'hui directeur d'un autre établissement de cette communauté religieuse, cette fois à Agen, il a été mis à pied à titre conservatoire, indique la congrégation qui parle de faits graves. Suite à ce signalement, une enquête pénale a été ouverte pour déterminer si les faits évoqués sont avérés. Une affaire de plus pour cet établissement bordelais, alors qu'un collectif d'anciens élèves de la congrégation dénonce des violences perpétrées entre 1950 et 1990. En décembre dernier, un ancien enseignant a été renvoyé devant la cour criminelle de Gironde pour le viol de 17 élèves et pour 6 agressions sexuelles commises notamment après 2017, époque où l'homme mis à pied à Agen était le délégué de tutelle du groupe scolaire.
Il est 8h06 sur RMC, on apprend à l'instant les mauvais chiffres du constructeur automobile Stellantis qui annonce une perte nette de 22,3 milliards d'euros pour l'année dernière 2025, deuxième plus importante perte jamais enregistrée par un groupe français en raison, nous dit-on, d'une charge exceptionnelle d'un peu plus de 25 milliards d'euros. Voilà donc l'information ce matin chez Stellantis. Une bonne nouvelle, tiens aussi, à vous donner ce matin, et Géraldine en a parlé il y a quelques minutes, la décrue qui s'accélère un petit peu dans l'ouest de la France. Le niveau de la Loire a baissé d'une trentaine de centimètres en 24 heures à Angers. Une quinzaine pour la Charente à Saintes. La Garonne, tiens aussi, a quasiment retrouvé son niveau habituel dans le secteur de Langon. Mais la gendarmerie sur place appelle à la vigilance car des escrocs profitent de la décrue pour embrouiller les sinistrés. C'est ce que nous explique Pierre Bourgès, le correspondant RMC dans la région.
Pendant plusieurs jours, le quartier de Damien était plongé dans le noir, mais une fois l'électricité revenue...
Il y a deux personnes qui ont accosté ma compagne en sortant de la maison.
Deux hommes qui se font passer pour Enedis et qui demandent au couple de régler l'intervention qui a permis de remettre l'électricité chez eux.
Il leur a dit, si on ne payait pas, qui coupait l'électricité carrément? On leur devait 159 euros, prenez les chèques ou le liquide.
Le couple ne tombe pas dans le piège, ne paye pas et prévient la mairie de Villandreau qui réagit aussitôt. La commune a envoyé un message aux habitants, attention aux escrocs. Cette retraitée a redoublé de vigilance depuis.
Je suis très en colère. On profite du malheur des gens, quoi, et pour faire du fric, et c'est dramatique.
Et pour éviter ces arnaques, le capitaine de gendarmerie Michael Mounier donne quelques conseils.
Il faut qu'ils s'assurent que effectivement l'entreprise a bien envoyé un agent, donc ils peuvent recontacter cette entreprise directement. Il faut demander les cartes professionnelles et en cas de doute, il ne faut pas hésiter à appeler la gendarmerie et demander à ce qu'une patrouille puisse intervenir.
Et sachez que de telles opérations de démarchage doivent toujours être déclarées, alors en cas de doute, un simple appel à la mairie peut aussi vous permettre d'éviter ce genre d'arnaque.
Le foot, c'est demain précisément que Paris va connaître son adversaire en huitième de finale de Ligue des Champions. Ce sera soit Chelsea, soit le Barça. Pour les Parisiens qui sont qualifiés en huitième, alors dans la douleur, en barrage, le retour, le match nul de partout hier soir contre Monaco. Et alors un des moments de la soirée, c'est aussi cette banderole qui a été déployée et même un chant de soutien à Achraf Hakimi, défenseur parisien renvoyé devant une cour criminelle pour le viol qu'il conteste d'une jeune femme, c'était en 2023. Le foot est aussi le match qui nous attend en fin de journée, 18h45, et on vivra ça sur RMC. Lille, qui va devoir renverser l'étoile rouge de Belgrade. La tâche s'annonce difficile après la défaite 1-0 au match aller du barrage de Ligue Europa.
C'était le journal de Quentin Vinet.